bonjour à tous pour cette 27e émission de l'art qui parle de notre temps. Une nouvelle fois, je vais consacrer une émission entière à une exposition. Après celle de la Biennale de Venise, il va s'agir d'une exposition monographique d'un artiste passionnant qui devrait intéresser tous ceux qui aiment la musique expérimentale et les sets DJ. Christian Marclay présente une exposition formidable au Centre Georges Pompidou jusqu'au 27 février 2023. Il s'agit d'un artiste qui mélange une approche expérimentale, sonore, proche du mouvement Fluxus, de l'apport de John Cage, mais aussi des mouvements proches de la pensée de Marcel Duchamp, notamment les appropriationnistes tels Cheri Levin, Richard Prince, par exemple, et une approche pratique performative, notamment de DJ, à l'époque de l'irruption du mouvement punk et de la New Wave, principalement à New York. Il se trouve que j'ai visité une autre exposition à la Philharmonie de Paris, au parc de la Villette, intitulée « Musique animale, le grand bestiaire sonore » qui s'y déroule jusqu'au 29 janvier. Or, l'un des tableaux à l'entrée de l'exposition, « Concert d'oiseaux », d'après Franz Schnitzders, vers 1630, qui nous montre toutes sortes d'oiseaux chantant ou émettant des cris, des sons. En les regardant, nous percevons mentalement des sons qui forment soit une cacophonie, soit une forme de concert. Vous y remarquerez une partition de musique comme si l'un des oiseaux en était le chef d'orchestre. L'exposition fait aussi écho au travail de Bernie Krause, de son livre, donc fameux livre « Le grand orchestre animal », dans lequel il a enregistré les chœurs de l'aube des oiseaux dans différentes régions de notre terre. La programmation musicale commencera avec le titre du groupe Aerosmith interprété avec le groupe Run-DMC, Walk This Way, et finira avec le titre Mrs. Fat Body de Mos Def. Au milieu, nous écouterons Digicool Hertz et le titre Technologie, puis en suivant Grandmaster Flash, Wheel of Steel Routine, all vinyl.
Neighbor, with the door, I had a table, and I get a little kid like this. ready to play. Buzz me, say I'm doing what you do, 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 what you do,
un peu d'exposition. Actuellement, le Centre Georges Pompidou présente une exposition monographique d'un artiste passionnant, Christian Marclay. Elle se termine le 27 février 2023, ce qui vous laisse encore du temps pour vous y rendre. Pour tous ceux qui s'intéressent au son, l'œuvre de Christian Marclay est une immense source d'inspiration. Né en 1955 à San Rafael, en Californie, d'une mère américaine et d'un père suisse, il va passer son enfance en Suisse, ainsi que ses premières années d'études à l'École des Beaux-Arts de Genève. Puis il s'en va, en 1977 à Boston, au Massachusetts College of Art. Il voyage à New York, où il explore la scène punk et new wave. De retour à Boston, il crée en 1979 un groupe de musique intitulé The Bachelor Evans avec son ami Kurt Henry. Leur musique, inspirée des expériences de Fluxus de celle du mouvement punk, est un agencement de sons préenregistrés, obtenus par des manipulations d'objets et des textes chantés. Il va dans un même temps se lancer dans des performances musicales et des expositions, car pour lui, sa quête est « qu'est-ce que le son ?». Il investit tous les médiums possibles, celui de la sculpture, de la peinture, de l'assemblage, du montage, de la vidéo, de la performance, qui se répondent en un mouvement continu de combinaisons intuitives, qui interroge les relations entre le son et l'image, le son et toutes ses formes de représentation, images, objets, instruments, textes, et de fabrication, enregistrement, improvisation. Le disque vinyle avec sa pochette va être le vecteur de ses premières expérimentations. À partir d'actions formelles fondées sur un matériel existant réapproprié, souvent des morceaux de musique, des objets récupérés, achetés, qui seront réinjectés, réinterprétés, détournés, brutalisés, etc., en utilisant principalement de toutes les manières possibles l'assemblage, le montage et la performance. Dans son premier album, Record Without Cover, de 1985, il offre une composition réalisée à partir d'un enregistrement à 8 pistes de vieux disques rayés. Marcella Lista, dans son texte publié dans le catalogue de l'exposition, le cite sur les débuts du duo The Bachelor Evan. « J'ai d'abord chanté, puis j'ai introduit des enregistrements de disques préparés sur des bandes magnétiques qui, passées en boucle, produisaient la partie rythmique du duo. » Puis je me suis demandé pourquoi ne pas utiliser les disques directement sur scène plutôt que de les enregistrer. C'est ainsi que j'ai développé un usage du disque comme instrument de musique dans le cadre des premiers concerts qui étaient très virtuels avec des objets et des projections d'images et de films. Le disque devient son instrument de musique, la matière même de sa création artistique qui prend différentes formes du concert DJ à l'assemblage de pochettes de disques. Il joue avec la platine qu'il porte comme une guitare électrique autour du cou en déplaçant la tête de lecture sur la surface du disque ou bien il la lance et se l'échange avec John Armleder lors de la pièce Simultaneous Duo Version à l'Écale Lausanne 2014. Pour tous ceux qui s'expérimentent à être DJ, je ne peux que conseiller d'aller voir cette exposition qui leur montrera toutes les expérimentations auxquelles s'est livré Christian Marclay. Le vinyle devient le lieu de production du son, qu'il soit cassé puis recollé les deux faces en sens inverse, cassé et réassemblé avec un autre disque lui-même cassé, etc. L'exposition présente une série de disques annotés 1979-1986 qui lui permettait de les jouer lors de ses performances de DJ. Mais son esprit essaye toujours d'expérimenter d'autres horizons qu'il mène jusqu'à leur épuisement, puis repart sur d'autres. Par exemple, dans la magnifique vidéo Fast Music de 1982, dans laquelle, en mangeant un disque vinyle, il produit du son, ou dans celle de la performance Record Player de 1984 à Paula Cooper Gallery à New York, où un groupe de personnes produisent des sons en agissant de différentes manières sur des vinyles, en les frottant, en les cassant, en marchant dessus. Il achetait par caisse entière des disques. Il dit lors de sa conversation avec Jean-Pierre Criqui, « J'achetais mes disques surtout dans des magasins d'occasion, des thrift stores, où ils ne coûtaient presque rien, parfois 10 cents ou 50 cents. Je dépensais rarement plus d'un dollar par disque. Évidemment, les pochettes m'attiraient beaucoup et le contenu était souvent une surprise. Il y en avait tellement. Des cartons entiers remplis de disques passés de mode ou endommagés. Je les achetais pour m'en servir dans mes concerts. Je les transformais, les découpais, altérais leur surface afin de produire de nouveaux sons. Beaucoup de ces disques étaient détruits lors de mes performances, mais je gardais beaucoup de pochettes, trop intéressantes pour être jetées. Je pouvais ainsi étudier les façons dont la musique était illustrée. La série des Imaginary Records de 1987-1999 a été le résultat de cette collection et de mes observations. Le réveil de l'imaginaire à la vue d'une pochette m'intriguait, ce mystère caché derrière la couverture et son lien potentiel avec la musique. Souvent la pochette était sexy alors que le contenu était banal. Tellement de packaging différents ou similaires, des tropes communs pour le commerce de la musique. Toutes ces solutions graphiques uniques et banales retenaient mon attention. Avec toutes ses premières expériences, Christian Marclay met en place les modes de conception de ses œuvres que nous détaillerons en quatre points. Premièrement, l'appropriation. L'appropriation, l'emprunt de toutes sortes de choses déjà existantes, trouvées, collectées et rassemblées en masse. À New York, lors des années 80, des artistes comme Sherry Levin annoncent la mort du mythe moderniste de l'originalité, nous dit Michel Gauthier dans son texte « La vue du son » publié dans ce catalogue. Il poursuit « Toutefois, l'art émergent de Christian Marclay affiche au moins autant d'affinités objectives avec certains aspects de la culture hip-hop qu'avec les travaux de la Picture Generation. » Dans la promotion de la reproduction, du réemploi comme attribut définitionnel de l'âge postmoderne, les tourne-disques de DJ Kool Herc ou de Grandmaster Flash jouèrent probablement un rôle tout aussi déterminant que les photographies After Walker Evans de Levin ou celles des Cowboys Marlboro de Richard Prince. Michel Gauthier situe bien l'art de Marclay entre de perpétuels allers-retours entre les formes plastiques appropriationnistes et la performance du DJ, avec comme obsession cette conscience de la pluralité des représentations du son. Baigné dans cette atmosphère artistique, vous l'aurez compris, l'œuvre de Marclay fait un grand usage du sampling, de l'assemblage, du collage et du food footage. Le food footage, c'est une méthode qui consiste à prendre des films déjà réalisés, récupérés, et puis ensuite pour en faire un autre film. Écoutons un instant DJ Kool Herc, le morceau Technologie, puis Grandmaster Flash avec le morceau Wheel of Steel Routine All Vinyl.
I'm the guy who created the culture called hip hop, but only I, Kool Herc. No Bambaataa, no Flash. I'm not a copycat, no disrespect.
He say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Fat Five Freddy told me everybody slide. DJ is spinning, I said, my. Flash is fast, flash is fast, flash is fast. Flash is cool, Francois, c'est pas, flash ain't no do.
He say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Tell me a story too.
Revenons maintenant sur la présentation des modes de conception de l'œuvre de Christian Marclay. Après avoir relevé le rôle de l'appropriation, intéressons-nous à la notion d'improvisation. 2. L'improvisation. L'improvisation, l'interprétation, l'aléatoire. David Toop, dans un texte publié dans la revue War, numéro 332 d'octobre 2022, nous dit « À mon avis, c'est une erreur de voir des musiciens interprétant l'œuvre. L'improvisation est l'œuvre, autant que le matériel visuel qui la stimule. Il est rare d'avoir un artiste prêt à fonctionner ainsi. Ça tient, j'imagine, au fait que lui-même apprécie les possibilités et les significations intrinsèques de la musique improvisée et qu'il ne veut pas l'utiliser uniquement pour les couleurs et les effets. Naturellement, lui-même est un grand improvisateur et c'est pourquoi les musiciens aiment travailler avec lui. » Lors de sa rencontre avec Jean-Pierre Criqui, Marclay dit « Accepter l'intervention du hasard dans mon processus de création et savoir que tout ne peut être expliqué ni même apprécié, cela m'a ouvert des possibilités infinies. Mais j'essaye toujours de trouver un équilibre entre une certaine rigueur intellectuelle et une grande liberté dans ma façon de créer. C'est un jeu d'équilibre car il y a toujours une sorte de décalage entre ce que l'esprit pense et ce que le corps fait. Il ne faut pas négliger non plus le pouvoir de l'humour qui peut déstabiliser notre rationalisme d'occidentaux. C'est peut-être dans ma pratique musicale que j'ai le plus accepté la notion zen de non-intentionnalité. L'improvisation musicale a certainement renforcé cette confiance dans l'aléatoire. 3. La participation. La participation est un élément intrinsèque de son œuvre, notamment car beaucoup de ses œuvres muettes peuvent être ensuite jouées par d'autres musiciens, comme Shuffle 2007, un jeu de cartes composé de photographies comportant des portées musicales, ou Graffiti Composition, 1996-2002, à double titre, en disséminant des portées musicales dans la ville de Berlin pour que tous ceux qui le souhaitent s'en emparent et en les faisant jouer à des musiciens après les avoir récupérés. Dans l'œuvre Berlin Mixte, Marcel Alista nous dit « Dans Berlin Mixte, organisé en 1993 dans le hangar de tramway désaffecté du quartier de Moabit, Marclay fait jouer dans une orchestration continue plus de 180 groupes de musique issus de pratiques les plus diverses. Ensemble à cordes, funk, rock, chœur d'église, d'opéra, DJ hip-hop, samba, musique traditionnelle, solistes en tout genre. La force de ce geste à large échelle, dans un espace-temps bouleversé par la chute du mur de Berlin, n'est pas seulement symbolique. Dans Berlin Mix, comme dans 100 Turntable, qui réunissait 4 musiciens jouant avec 100 platines, l'artiste met en place une opération de compression maximale. Il donne forme à un espace qui n'est plus simplement, comme chez John Cage, celui de l'accident et du hasard. C'est un espace de co-agentivité au sein d'une saturation à la fois flottante et articulée qui aspire à embrasser une diversité sensible, assumée comme une nouvelle condition de l'être au monde. Un espace d'écoute multiple et intercroisé où émerge sans nécessairement se résoudre la question de la traduction. Ce qu'affirme discrètement l'œuvre de Marclay est que l'interprétation musicale tient elle-même aussi et toujours de la traduction, une traduction partielle et subjective qui vaut pour l'ici et maintenant. 4. Point, l'extension de son approche du son. Cette extension s'opère non seulement par la multiplication des expériences pour inventer des sons, mais aussi par la potentialité d'inventer mentalement les sons, à partir de toutes choses qui s'y réfèrent, même si certaines sont muettes. L'une des premières extensions du son, c'est le silence. Nous savons que le silence est peuplé de sons, comme l'a montré la pièce de 4 minutes 33 de John Cage, interprétée par David Tudor au Mavenick Concert Hall de Woodstock dans l'État de New York en 1952, dont l'action a consisté à ouvrir le capot du piano et à le refermer 4 minutes 33 après. Héritier de Marcel Duchamp et de John Cage, Christian Marclay se laisse envahir par la potentialité du son dans les objets. Leur silence en soi n'est pas pour lui une incapacité à ressentir la musique. L'exemple le plus simple à comprendre est l'emploi des onomatopées. Zoom, bang, chauffe, woum, ah, etc. Rien que le fait de lire le mot, le son apparaît, car le mot n'est qu'une traduction possible du son. Polly Barton, dans son texte « L'œil qui regarde la main et qui tend l'oreille, entrée » de Christian Marclay, écrit « Ces onomatopées sont à l'écrit de simples mots plutôt que des phrases entières, ce qui facilite leur perception instantanée par l'œil. Au-delà de cette brièveté, c'est surtout l'absence de frontières claires entre l'acte de regarder et l'acte de lire qui influence la manière dont on les appréhende. Une autre frontière subit simultanément le même type de brouillage, la limite entre le son et la signification devient floue. On ne s'étonne donc pas que l'onomatopée soit l'une des grandes obsessions de Christian Marclay, lui qui explore sans relâche les espaces et les interstices qui existent entre nos différentes sortes de représentations. Les onomatopées se situent exactement au carrefour de plusieurs formes de représentation, entre ce que l'on caractérise selon les cinq sens et les nombreuses actions et verbes qui y sont liés. Si l'on a conscience, alors on peut enfin s'apercevoir que d'autres obsessions récurrentes chez l'artiste ont les mêmes qualités, la partition de musique, le disque enregistré et bien sûr l'image en mouvement. Qu'importe ce que Marclay manipule, le regardeur prend conscience des catégories que chaque chose veut imposer à la perception, précisément lorsque l'œuvre laisse entrevoir ce qui pourrait se passer si l'on dépassait ces catégories. La société veille à la pérennité des murs épais, quoique souvent invisibles, entre nos cinq sens et les dimensions représentationnelles auxquelles ils sont associés. Et le fait que la synesthésie, sans même évoquer la tendance occidentale à exotiser, voire fétichiser cette réaction, soit définie comme un trouble neurologique, illustre bien notre réticence à considérer comme normale une réponse multisensorielle à un stimulus procédant soi-disant d'un seul sens. L'œuvre Chorus 3 de 1988 regroupe 29 photographies de bouches qui chantent. Est-ce une cacophonie ou au contraire un chœur harmonieux? Qu'importe, puisque c'est à vous de l'entendre. L'œuvre Untitled Large Circus de 1992 assemble en formant un cercle de pochettes de disques présentant tout un portrait de chanteur dont on ne voit que la bouche ouverte, chantant, criant ou fermée. Guitar Neck de 1992 est un empilement de pochettes comportant tout un manche de guitare qui s'assemble pour former un immense manche. Je peux évoquer formellement le travail de Gordon Matta-Clark où l'assemblage de photographies des découpes architecturales offre une visibilité amplifiée de son intervention sur le bâtiment. Ici, on imagine assez bien que l'extension du manche offre de nouvelles opportunités de produire des sons qui vous restent bien entendu à imaginer et à ressentir. Les propositions des œuvres Imaginary Record 1987-1999 dénote chez Christian Marclay un sens de l'humour et un grand sens critique, souvent à consonance politique. La pochette du disque, dont l'usure porte l'empreinte du disque et dont le titre est « Smoke Ring », un anneau de fumée, celle déchirée au centre qui ne laisse plus apparaître que le mot « mort » alors que nous y projetons sans difficulté les deux autres lettres manquantes formant « Mozart », la couverture rouge présentant au fond les loges d'un théâtre à l'italienne, deux bras au premier plan qui jaillissent sur le côté, dont l'un porte une baguette, et en haut, le mot « magique » sur la pochette. Les pin-up américaines des années 1950, présentant sur toutes les pochettes que constitue l'œuvre Incognita de 1990, deviennent interchangeables, comme l'est la musique de hall d'aéroport, désuète, prête à disparaître à jamais, marque d'une époque révolue car elles peuvent être zippées. Juste défaire les fermetures éclairs qui les relient pour qu'elles tombent au sol ou qu'elles dévoilent leur nudité. L'ensemble d'assemblages de pochettes Body Mix 1991-1993 qui s'amuse de l'hypersexualité des pochettes de disques nous rappelle les corps langoureux des femmes s'allongeant sur des carrosseries pour promouvoir les voitures. Les chefs d'orchestre perçus comme des dictateurs dans l'époque éponyme « dictateur » de 1990, qui par leurs gestes précis et incisifs ordonnent à la musique. Critique de tout ce que Christian Marclay rejette en favorisant l'improvisation, l'interprétation et la participation. La pochette avec les deux mots « listen silent », ce dernier mot est écrit en gros et caractère bâton dans le cadre de couleur verte, tandis que « listen » est écrit dans une typographie fine et arrondie, nous chuchotant « écoute quoi ?» Le silence, évidemment. La pochette représentant le même visage coupé au niveau du haut du nez, l'un renversé sur l'autre, portant son doigt à la bouche comme pour nous dire « chut », alors que la chevelure forme deux grands pavillons d'oreilles, ne dit pas autre chose. L'inversion de la proposition qui transforme l'écoute du silence en écoute du son, de l'image, du mot, de l'objet silencieux est une constante de l'œuvre de Christian Marclay, car elle lui permet d'explorer toutes les dimensions possibles du son. L'humour est souvent présent dans ses propositions. L'œuvre « Investigation » de Marclay n'est pas sans écho avec celle d'Alphonse Allais de 1897 qui écrit une partition « Marche funèbre composée pour les funérailles d'un grand homme sourd dont les portées sont vides ». Le portfolio « Investigation » montre à chaque feuille, en partie haute, des mains de pianistes jouant et en partie basse, des portées de musique vides. Tout reste à faire. Mais Marclay nous montre un chemin possible en donnant ces éléments à des pianistes pour qu'ils improvisent dessus, ce qui fut fait à Berne au HKB le 15 décembre 2021. Dans l'œuvre Graffiti Composition de 1996-2002, dont nous avons déjà parlé, il affiche 5000 partitions avec des portées de musique vierges qu'il dissémine dans tout Berlin. Puis il les collecte avec toutes les annotations, les graffitis, dont elles sont recouvertes. Une improvisation musicale de cet ensemble sera créée au Whitney Museum of American Art de New York le 29 juillet 2010. Dans l'œuvre Shuffle, dont nous avons aussi parlé, de 2007, un coffret avec des grandes cartes, dont chacune est composée d'une seule photographie prise au fil de ses pérégrinations, pour trouver des objets, dessous de plats, enseignes, badges, t-shirts, tasses à café, etc., comprenant tous une portée musicale. L'ensemble sera joué lors d'une performance en 2007 par le groupe Maz à Bruges le 16 avril 2014, mais aussi à d'autres occasions dans d'autres configurations. Dans une autre œuvre, Why Knows, de 1993, il récupère un grand nombre de photographies d'amateurs aux puces de Berlin. Il sélectionne celles qui représentent des musiciens en train de jouer. Il les accroche au mur, tels des post-it. La photographie est tournée contre le mur, seul le dos est visible, comprenant parfois des écrits, dessins, parfois il est vierge. Il dit lors de sa rencontre avec Jean-Pierre Criqui, la première pièce réalisée avec ces photos était Why Knows en 1993, où j'ai retourné toutes les images pour n'en montrer que le dos, façon d'exagérer leur mystère et de les rendre moins anecdotiques. L'objet m'intéressait plus que l'image, car en fin de compte, tout le monde photographie les mêmes choses. Les albums photos de l'époque se ressemblaient tous. Ils appartenaient à des gens différents, mais qui faisaient tous la même chose, qui documentaient les mêmes sujets. Naissance, école, mariage, anniversaire, enfants, petits-enfants, enterrements, etc. Le plus émouvant pour moi était le silence de ces images. Elles sont toujours muettes. C'est pourquoi j'ai mis de côté toutes les photos qui montraient des musiciens en train de jouer ensemble. Avec des gens saisis dans le vif de la musique, le silence devenait encore plus évident. La photo apparaît alors comme une sorte d'enregistrement sonore silencieux. Mais les objets muets sont aussi convoqués pour libérer le son, qu'il soit sculptural, comme la colonne Endless Column de 1988 composée de centaines de disques empilés, qui potentiellement comprend des heures de musique, ou d'or, en 1988, qui est une porte comprenant deux découpes comme celle des ouïes d'un violoncelle, qui fait référence à la photographie très connue de Man Ray, le violon dingue, de 1924 du modèle Kiki vu de dos sur lequel est peint deux clés de portée musicale. Ou la pièce Tinsel de 2005, qui est une petite boîte à musique, Sur le couvercle est inscrit à l'extérieur « Silent », si l'on ouvre « Listen ». Ou la pièce « Sound Hall » de 2007, composée de plusieurs photographies de haut-parleurs d'interphones d'immeubles, cercle percé sur sa circonférence, de trous pour accueillir ou expulser le son. Ou l'œuvre « Momento » de 2009, qui sont des rayogrammes, l'artiste ayant posé des cassettes de musique magnétique, déversé la bande sur la surface du papier, enduit d'une substance chimique qui permet d'impressionner les lacis de la bande magnétique directement sur le papier. Ou encore la pièce « The Beatles » de 1989, qui forme un oreiller fait de bandes magnétiques crochetées à l'extérieur et remplies de bandes magnétiques à l'intérieur, issues de tous les enregistrements de leur musique qu'avait collecté Markley. Parfois, l'instrument est devenu un objet silencieux, car il est déformé, comme cet accordéon serpent dans l'œuvre Virtuose de 2000, ou ces baguettes de batteur en verre de l'œuvre Drumstick de 2000, ou cette batterie dont les éléments sont agencés en fonction de la hauteur de leur tonalité dans l'œuvre Drum Kit de 1999. Aucun de ces instruments ne peut être joué, c'est simplement la potentialité du son qu'ils peuvent produire qui nous invite à écouter dans nos têtes. Il est une autre partie de son œuvre qui analyse la relation de l'image et du son. Là encore, il va multiplier les expériences. Premièrement, il commence par filmer ses performances sonores. Dans Record Player de 1984, dont nous avons déjà parlé, il filme un groupe de personnes en train de fabriquer des sons avec des disques qu'ils frottent entre eux, qu'ils cassent et finalement piétinent. Dans l'œuvre Guitar Drag de 2000, il filme une simple scène dans laquelle il accroche une guitare électrique à un pick-up qu'il branche ensuite à un ampli, puis il démarre en laissant traîner la guitare au sol, qui va déverser des bruits violents et déchirants. Il réalise cette scène sur une route proche de celle où a eu lieu le lynchage d'un noir américain, James Byrd Jr., indirectement porteuse d'une critique politique de discrimination raciale, mais aussi clin d'œil à une œuvre plus ancienne de Nan Jumpek, Violin with String de 1962, dans laquelle ce dernier tirait avec une ficelle un violon. Guitar Drag se plaît, dans la pluralité des approches, à jamais fermer le sens de l'œuvre. Deuxièmement, il va jouer de la dissociation puis l'assemblage des bandes son et images. Deux autres œuvres vont le conduire à construire une œuvre maîtresse, Vidéo Quartet de 2002. Il va pratiquer le sampling des images dans l'œuvre Téléphone, 1995, et le couplage et mixage entre la bande son et la bande image dans l'œuvre Up and Out de 1998. Dans Vidéo Quartet, il réalisera les deux opérations en prenant des films, principalement hollywoodiens. Michel Gauthier nous dit que l'œuvre Téléphone est un montage d'environ 130 extraits de films en noir et blanc ou en couleur d'un peu plus de 7 minutes distribués en 6 principales séquences, composition du numéro de téléphone, sonnerie du téléphone, décrochage du téléphone avec la formule FATIC, le plus souvent allô, émission d'un message, réception d'un message, fin de la communication. Alors que l'appel du téléphone a été l'un des instruments du suspense dans la fiction cinématographique, sans attendre du reste la naissance du cinéma parlant, il est dans Téléphone arraché à la machinerie diégétique dont il était un rouage pour n'être plus qu'un appareil au service de lui-même. Les téléphones n'ont, dans Téléphone, aucune charge cinéphilique. Ils sont choisis pour leur aptitude articulatoire dans une concaténation où le téléphone n'est pas au service d'une fiction, mais le récit au service du téléphone. Ici, le message est vraiment un médium. L'œuvre « Up and Out » de 1998 modifie intrinsèquement la relation de l'image et du son car il inverse la bande-son du film « Blow Up » de Brian De Palma avec celle du film « Blow Up » d'Antonioni et crée une nouvelle version de ces deux films. Dans sa rencontre avec Jean-Pierre Criqui, il dit « Les rapports entre le son et l'image m'ont toujours intrigué. Je me suis livré à diverses expériences à ce sujet, comme avec Up and Out, 1998, où j'ai mis la bande son de Blow Up de Brian De Palma sur la bande image de Blow Up d'Antonioni. Sans aucun montage, la coupe est faite dans la longueur en séparant bande son et bande image. Le résultat est étonnant car on a parfois l'impression d'une synchronisation, mais elle est purement aléatoire et de l'ordre de l'illusion. Cela permet une autre compréhension de Blow Up, un film en lui-même déjà très mystérieux. Lors de cette même rencontre, Mark Lee dit que l'œuvre Vidéo Quartet constitue pour lui le résultat de ses idées de composition audiovisuelle. Le son et l'image sont traités de la même manière, l'un n'est pas plus important que l'autre et ils sont complémentaires. J'ai cherché dans le cinéma des actions et des sons à partir desquels créer une composition musicale, comme un DJ, mais avec des images sonores. L'œuvre est vraiment magistrale car elle accroche le son et l'image au défilement narratif de l'œuvre qui est autant une composition musicale qu'un film propre, où les sons constituent la partition, les images la narration. La partition et la narration concourent à l'œuvre de manière égale. Car les images et les sons des films empruntés n'ont plus rien à voir avec celui qu'ils forment. Michel Gauthier écrit « L'œuvre fait défiler les images de 4 vidéos synchronisées, constituées de plus de 700 extraits de films, principalement hollywoodiens, allant des années 1920 au début du XXIe siècle, et qui mobilisent un bagage culturel commun à un grand nombre de personnes les regardant. » La plupart de ces extraits montrent des musiciens en train de jouer de leur instrument. Certains étaient consacrés à des objets utilitaires émettant un son. L'œuvre se termine aussi sur l'image et le son d'une porte qui claque. Si dans un quatuor à cordes certains thèmes peuvent passer d'un violon à l'autre, à l'alto ou au violoncelle, dans Vidéo Quartet, certaines images circulent d'une vidéo à l'autre. Parfois même, les 4 vidéos jouent à l'unisson. Elles montrent les mêmes images. L'œuvre propose une expérience visuelle et sonore irréductible à la simple addition de ses composants. Monumental, split screen et partition à 4 voix manifestant un savant contrepoint aux effets harmoniques inversés. Les images hollywoodiennes sont soustraites à leur logique narrative d'origine et leur sont intégrées à une polyphonie qui les altère radicalement. 3 autres films construits avec les mêmes outils participent d'une même logique de recréer un tout. Une unité de temps dans The Clock, 2010, une unité d'action dans Doors, de 2022, et une unité d'espace dans All Together, de 2018. Clock est une œuvre qui a eu un grand succès, mais pour Christian Mark Lee, elle semble une œuvre secondaire. Il le dit lors de sa rencontre avec Jean-Pierre Criqui. The Clock est pour moi une œuvre secondaire, car difficile à éviter, car elle prend beaucoup de place. C'est beaucoup plus qu'une installation vidéo, c'est un événement. Chaque fois qu'elle est présentée, les foules font la queue et y passent des heures. The Clock est aussi une performance où tout spectateur devient acteur, chacun devant organiser son temps, indépendamment dans la mesure où elle n'a ni début ni fin. Il ne s'agit pas d'un film à diffuser dans des conditions ordinaires du cinéma. C'est une installation qui doit permettre une circulation, de sorte que l'on puisse entrer et sortir facilement sans déranger toute une rangée de spectateurs. Il n'y a pas de séance commençant à une heure précise à laquelle il faut arriver. The Clock est une méditation sur le temps qui passe. On doit pouvoir l'abandonner et y revenir autant qu'on le souhaite. Elle n'est pas faite pour être vue d'une traite. Notre perception du tout peut être donc aussi fragmentaire que l'œuvre elle-même. The Clock est une œuvre composée d'un grand nombre de fragments de films où figure un réveil, une montre, une pendule, un objet qui indique une heure précise. Leur succession s'opère en suivant le déroulé temporel des heures et des minutes d'une journée. Le film est une sorte d'horloge où les fragments de films jouent le rôle de la trotteuse. L'œuvre dure 24 heures, une unité de temps de nos vies, un tout, comme le dit Mark Lee, que nous ne faisons que traverser pour quelques minutes ou quelques heures. S'y combine l'image filmique et l'indication de l'heure au point que la narration de ce film n'est que le temps qui s'écoule, dont nous attendons minute après minute qu'il défile. Nous sommes là non pour savoir quelle heure il est, mais fasciné par son déroulement. L'autre œuvre, All Together, de 2018, fait partie des 5 œuvres réalisées avec Snapchat. Des ingénieurs de Snapchat ont mis au point des algorithmes permettant de filmer et de classer des millions de vidéos selon leurs caractéristiques sonores. Puis, Markley a composé une pièce musicale avec plus de 400 snaps indépendants des images qui proviennent du monde. Sorte d'improvisation d'une partition jouée par des centaines de personnes provenant de toute la Terre. Une unité d'espace fragmentée en autant de snaps de personnes différentes éparpillées sur la Terre que la succession des sons unit. La dernière œuvre d'or est présentée pour la première fois à cette exposition. Écoutons ce que nous en dit Markley lors de sa rencontre avec Jean-Pierre Criqui. J'ai commencé à travailler sur cette vidéo il y a 10 ans, après avoir terminé The Clock. J'avais fait quelques essais qui m'avaient découragé, car ce montage est un casse-tête que j'ai plusieurs fois abandonné et repris. C'est un collage beaucoup plus complexe que Téléphone ou même The Clock, bien qu'il soit aussi composé de courts extraits de films. J'y montre des acteurs ouvrant et fermant des portes. Chaque acteur passe par une porte pour rentrer dans un autre espace. Ce passage de la porte indique le point de coupe, donc le passage d'un film à l'autre. Pour créer un effet de continuité, je dois trouver un rythme, une dynamique fluide qui lie chaque ouverture et fermeture de porte. Ce n'est pas facile car toutes les portes s'ouvrent différemment, rapidement ou avec hésitation. Elles sont poussées ou tirées, la charnière est à gauche ou à droite. Ça sera une sorte de labyrinthe, une architecture mentale où ces personnages transitoires vont se perdre et se retrouver. C'est un peu comme les jeux de mots qu'on faisait enfant. J'en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre de feu, feu follet, etc. Tout se construit autour d'une seule action, ouvrir une porte qui assure un passage d'un espace à un autre. Une action qui libère l'invention de la répartition des espaces, de ce bâtiment infini que nous tentons de gérer dans nos têtes. Comme il le dit, une architecture mentale qui nous appartient, car les personnages et les espaces apparaissent aussi vite qu'ils disparaissent. Unité d'action qui découvre une multitude d'architectures possibles. Markley vise à la polysensorialité qu'il gouverne par le rythme et la dynamique des sons pour échapper justement à une quelconque définition. L'unité qu'il crée n'a pas d'autre consistance que sa capacité de fascination et sa fluidité, comme du sable qui s'échappe des doigts, pour la disperser en une multitude de facettes vivantes, de fragments vivants. Dans l'œuvre « 4th of July » de 2005, il photographie une fête nationale, le 4 juillet 2005, dans une petite ville, Hyde Park, où est né en 1882 Franklin Delano Roosevelt, et plus particulièrement la fanfare qui traverse la ville. Puis il déchire les photographies et ne garde que certains fragments, souvent représentant des instruments ou des musiciens. Le son ne s'entend que par la vision de ces fragments photographiques, tels que nous l'avons vu précédemment dans l'œuvre Shuffle, par exemple. Unité de temps, fragment de photographie du passage de la fanfare, le spectateur a la charge de la reconstitution mentale de l'espace et du son. Dans son article, L'image en fuite de Jean-Pierre Criqui finit son texte en écrivant « La grandeur de 4th of July tient aux moyens utilisés par Markley pour déclarer l'indépendance de ses clichés. En les déchirant et en faisant de chaque élément ainsi produit un fragment irréductible et irréconciliable, il les a dotés d'une puissance symbolique supérieure à quelques approximations d'un tout par définition impossible, mensonger. Le tout photographique de l'événement qu'elle a enregistré, de l'histoire que celui-ci commémorait. Et parce qu'elles n'ont de cesse de nous échapper par un bord ou un autre, parce qu'elles demeurent perpétuellement en fuite, ces images nous retiennent et nous les gardons en mémoire. » Autre manière pour exprimer ce que j'ai tenté de vous dire sur les films de Markley. Cette manière de nous fasciner pas tant par les images fragmentaires que par notre capacité à prendre la mesure du son mentalement. Let me tell you about it.
y'all. And she came with the same type game, the type of girl giving out the fake cell phone, the name Big Fame. She like catching big things, jewel chip, money clip, phone flip the six range. And seen her on the ass, spotted her more than once. Ass so fat that you can see it from the front. She spot me like paparazzi, shot me a glance. And that cat woman stands with the fat booty pants. Hot damn, what's your name, love? Where you came from? Neck and wrist laced up, very little makeup. The swims at the Reebok gym, tone your frame up, a sugar and spice. The only thing that you made up. I tried to play it low key but couldn't keep it down. Asked her to dance and she was like, yo, I'm leaving now. An hour later, Sam's from Jamaica. She sipping Chris straight up, shaking while in the waist up. Scene. My fam throwing the jam for Reed is on the stand. Big things is in the plan. The brother Big Moon makes space for me to move in. Yo, this my man Most. Baby, let me introduce. I turn around. You was the same pretty bird who I had priorly observed. Trying to play me for the herd. Shocked to sell, she couldn't get it together. I just played along and pretended I never met her. How you feeling? No, I'm fine. My name is Most. I'm Sharice. I heard so much good about you. It's nice to finally meet. He moved to the booth, preserved the crew, especially your honey love. Ended up sitting directly next to me. I'm tight polite, but now I'm looking at her skeptically. Cause baby girl got all the right weaponry. Designer fabric, shoes and accessories. Chinky eyes, sweet voice, want me mentally. Be conversating, made her laugh, yeah, you know me, bro. Even though I know the steelo, she wild, sweet, yo. I'm about to murk, I say peace to the family. She hop up like, how you gonna leave before you dance with me? Dance with me.
She blew my whole head with that dude. I was like, what?
I played it low, though. I was like, yeah, all right, come on then, let's go.
Man,
she's so sick. I said, yo, honey was so blazing. She was, what, yo, she looked like Jay Kennedy, word born to my mama, man. She was that L, man. She take it to the dance floor and she start whispering to me. Yo, let me apologize for the other night. I know it wasn't right, but baby, you know what it's like. Some brothers don't be coming right. I understand, I'm feeling you. Besides, can I have a dance? Ain't really that original. We laughed about it, traced the arms across my shoulder blades. They playing lover's rock, I got to fold the fingers on the waist. He in my butt up like the Arizona summer song finished. And she whispered, honey, let's exchange numbers.
Scene three.
Weeks of dating, late night conversation. In the crib, heart racing, trying to be cool and patient. She touched on my eyelids, the room fell silent. She walked away smiling, singing great. Gregory Isaacs, like, if I don't, showing me a tan line and a tattoo, playing Sade, sweetest taboo, burning candles, all my other plans got canceled, man, I smash it like an Idaho potato, she called me at my J.O., come now, I can't say no, Jensen tree trunks, rocking a pee from cocking her knees up, champion lover, not ease up, 3 months, she call, I feel I'm running a fever, 6 months, I'm telling her I desperately need her, 9 months, blue light symptoms with shorty not around, I need more than to knock it down, I'm really trying to lock it down, midnight we hook up and go at it, burn a stove and let her know, sweetheart, I got to have it, she telling me commitment is something she can't manage, wake up the next morning, she gone like it was magic, oh damn it, it's on Harrison, full frantic, my number wasn't answered by my fly tourist enchantress, next week, who hit me up, I saw Sharice at the kitty club with some banging ass.